Bolivie dont nous revenons, on est sur le retour, sur la route du retour, La Paz, Lima, Caracas, c'est long. Le retour est long, c'est un long voyage qui fait plus de 20 heures d'avion, mais ça vaut le coup parce que on revient avec des images, des interrogations, des découvertes aussi de ce qui se passe actuellement en Bolivie. L'essentiel, bien sûr, c'est une rupture avec les politiques néolibérales qui avaient conduit ce pays, comme d'autres d'ailleurs dans la région, au bord de la catastrophe. Mais c'est le moment aussi de s'interroger sur le néolibéralisme qui n'est jamais qu'une forme du capitalisme, s'interroger et se documenter un peu mieux. C'est ce qui se passe actuellement avec Karl Marx. Les œuvres de Karl Marx, vous le savez peut-être, rencontrent un succès croissant depuis quelques mois, un an ou deux. Et l'œuvre de Karl Marx est lue, relue aujourd'hui à la lumière d'aujourd'hui. Alors je vous propose de découvrir pour certains, redécouvrir pour d'autres, à la fois Marx, sa vie, son œuvre et comment s'en servir. Mode d'emploi. Karl Marx, mode d'emploi, c'est un bouquin qui sort ces jours-ci aux éditions de la Découverte avec des dessins de Charb qu'on ne présente plus et le texte est de Ben Saïd, Daniel Ben Saïd, qu'on présente peut-être un petit peu plus, quoique philosophe, professeur de philosophie, un bon spécialiste de Marx, tout comme de Walter Benjamin d'ailleurs, et qui nous éclaire aujourd'hui et demain, ça va être en deux volets, sur donc Karl Marx et comment s'en servir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas j'y suis avec Daniel Ben Saïd. Marx, mode d'emploi.
Flight number 2, arriving from New York.
Il a depuis longtemps révélé comment un capitalisme débridé peut agir à la façon d'un mythe attribuant réalité et pouvoir à des choses qui n'existent pas par elles-mêmes. De qui parle-t-on ? Question, et qui parle ? De qui parle-t-on ? Eh bien, on parle d'un certain Marx, Karl. Je répète la phrase, il a depuis longtemps révélé comment un capitalisme débridé peut agir à la façon d'un mythe attribuant réalité et pouvoir à des choses qui n'existent pas par elles-mêmes. Et qui parle ? Eh bien, c'est, vous aviez trouvé, l'archevêque de Canterbury. Ça commence très très fort. Ça commence très très fort et c'est très intéressant de commencer par là, je trouve, parce que ça raconte que Marx intéresse beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui et que Marx est de retour. Voilà pourquoi on se retrouve avec Daniel Ben Saïd, qui est l'auteur de ce Marx mode d'emploi aux éditions Zone, avec des dessins de Charb. Et la couverture dit l'intention générale du bouquin. Marx est mort, ha ha ha, les cons, et celui qui dit ça en cavalant, c'est Marx lui-même. Et c'est vrai que ces temps derniers, on a vu des gens comme Jacques Attali saluer Marx, même écrire beaucoup sur Marx, et on a vu quelqu'un comme Alain Minc se prétendre le dernier marxiste français. À certains égards.
À certains égards.
Daniel Ben Saïd, comment expliquer ce retour de Marx ? Le spectre est de retour.
Oui, il y a une actualité éditoriale qui ne fait que concrétiser l'actualité de sa critique des sociétés contemporaines. C'est pour ça que ce retour, quand et comment, ça, personne n'aurait pu le prédire, mais en revanche, il n'y avait pas tellement de doutes pendant les années de disgrâce, justement, parce que la couverture que vous venez de citer, c'est une réplique à un titre à la une du journal Newsweek au début des années 80, qui avait titré « Marx est mort, à les cons ». Ça a été la période de purgatoire ou d'éclipse, mais à partir du moment où on est aujourd'hui confronté à ce qu'un ami économiste appelle un pur capitalisme, les mécanismes du système mis à nu, eh ben, sans en rester là, parce que la société a bougé depuis Marx, mais renouer les fils de la critique de cette société, de ses fétiches, de ses mythes, etc., à partir de Marx, c'est pas un point d'arrivée, mais c'est un point de départ presque indispensable.
Il faut différencier tout de suite Marx et le marxisme.
Bah déjà, dans l'isme de marxisme, il y a l'idée d'une doctrine. Or, Marx, dans une lettre de jeunesse assez fameuse, disait déjà qu'il voulait pas théoriser en doctrinaire, mais railler en critique. Donc, le but n'était pas de fonder une orthodoxie ou une doctrine figée, mais une espèce de pensée critique en mouvement. Alors le marxisme, d'abord, il y en a eu de multiples branches et familles. Le grand philosophe allemand Ernst Bloch distinguait les courants chauds et les courants froids du marxisme. Les courants qui étaient plus du côté de la critique, de la subversion, et puis les courants qui étaient du côté de la cristallisation et de l'État. Bon, moi je pense qu'il vaut mieux différencier. J'emploie presque plus jamais le mot de marxisme, parce qu'il y a tellement de choses derrière et de choses contradictoires. Et malheureusement, le marxisme, pour le commun des mortels, a été identifié à ses figures étatiques et à ses orthodoxies de partis ou d'État du XXe siècle, l'Union soviétique, le mouvement communiste officiel. Et il vaut mieux parler de la théorie de Marx, de la pensée de Marx, et puis après, il y a des rameaux que Saint-Fleur s'épanouissent à partir de là.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, c'est t'as compris France Fanon, appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'inflictes des visages, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage, appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent, reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise, si tu je pense qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrase, appelle-moi camarade.
Appelle-moi camarade, parce que mes larmes sont les tiennes sont les miennes, bref nos peines sont les mêmes, on se démène pour éviter l'abattoir. Ouais, je me démerde, merde, sans perdre de vue l'étoile qui m'a dit pas toi. Je manie la plume comme Marcos, la rage d'une cassos, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie, issue d'une génération endormie par la matrice, enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme, appelle-moi camarade, cause d'un monde bien malade, tout le monde s'en bat la rage, braque les haut-parleurs avec des rimes dans lesquelles parle la rage. C'est l'heure de s'unir car l'urgence nous rattrape, dans le meilleur ou dans le pire, on est ensemble, camarade.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrase, appelle-moi camarade.
Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux, ils ont canassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Patrie, pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du grand art, y'a qu'à regarder pour voir, on est mort sans savoir. Comme asphyxié, en perte d'oxygène, comme enchaîné à la destinée de cité où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air, mais au fond de moi je sens bien que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade, armée de l'ombre en embuscade, vamos camarade.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrase, appelle-moi camarade.
Alors, est-ce qu'on peut commencer par faire un peu un portrait du bonhomme Marx, qui est complètement inscrit dans le 19e siècle, hein. Il va être témoin des grandes charnières du 19e siècle européen, hein, en Allemagne, France et Angleterre, mais il va être le penseur de la révolution industrielle malgré tout.
Oui, alors bon, Il y a une chose que je voudrais signaler quand même, parce que on est toujours un peu prisonnier des images et on a toute l'iconographie du Marx barbu, imposant, et d'ailleurs comme il prenait les photos à l'époque, en pose devant des tentures, etc. Ce qui brouille un peu l'idée que c'est d'abord lui et Engels, qui est beaucoup mieux qu'un comparse, hein. J'aime bien un peu réhabiliter Engels, qui est un type beaucoup plus sympathique humainement d'ailleurs que Marx, joyeux buveur, farceur, caricaturiste, etc. C'est des jeunes gens au cœur de la tourmente européenne d'une Europe en fusion dans les années 1840-48, etc. Et c'est d'abord des jeunes hommes révoltés et qui commencent à chercher les raisons de leur révolte et à trouver une expression rationnelle à leur révolte. Alors par ailleurs, effectivement, Marx est un peu celui qui a déchiffré les hiéroglyphes de la modernité, étant au cœur de Londres au moment où se produit la première mondialisation et où le développement du télégraphe, de la navigation à vapeur, l'explosion du chemin de fer sont les équivalents pour les transports et les communications de notre révolution Internet, avions supersoniques. On a, pareil, la création du crédit, de l'explosion du crédit et du phénomène bancaire. Hein, c'est l'époque où la bourse devient l'ébauche de ce qu'elle est aujourd'hui, avec les scandales financiers traités par Zola dans l'argent, etc. Mais que Marx est déjà témoin de l'écroulement du crédit immobilier sous le Second Empire. Donc les phénomènes spéculatifs qui jouent par derrière l'autonomie de l'argent, les scandales, l'agiotage, etc. Et puis le début aussi de la grande consommation, pas de masse telle qu'on la connaît aujourd'hui avec Walmart et compagnie, mais c'est le début des grands magasins, les expos universels, c'est les vitrines de la marchandise, la transformation de la ville. Bon, on a toute une séquence, en gros, qu'on pourrait dire la première ou la deuxième, peu importe, mondialisation, qui préfigure, qui est une sorte de préface à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je crois qu'on a deux époques qui entrent en résonance, qui dialoguent parfaitement. C'est pour ça que le monde dont parle Marx nous parle plus qu'on ne l'imagine. C'est pas la visite à une espèce de sanctuaire. Non, c'est une sorte de dialogue d'un siècle à l'autre, de deux siècles à l'autre.
Marx et Engels, puisque vous les rapprochez tout de suite, vont beaucoup parler des prolétaires, mais ils sont pas des prolétaires. Marx a pour père un avocat qui est d'une famille, vieille famille de rabbins, hein, c'est oui, ça, oui. Qui se convertit pour pouvoir faire son boulot d'avocat. Oui. Il est obligé de se convertir au protestantisme. Quant à Engels, c'est un fils d'une bonne famille, d'une entreprise de négociants de Manchester. Voilà, c'est pas des prolos là, au départ, ni l'un ni l'autre.
Non, ils font partie de cette génération intellectuelle qui ont espéré, dans leur bouillante jeunesse, que l'Allemagne connaîtrait les transformations consécutives à la Révolution française et qui se trouvent devant une époque, au contraire, de régression, de fermeture, de restauration, et qui sont déçus par la couardise surtout, ou l'inconsistance de la bourgeoisie allemande, qui est une mosaïque de petits États dont la Prusse est le principal à l'époque. L'Allemagne n'est pas unifiée, il faut quand même le rappeler. Donc c'est des jeunes révoltés qui sont déçus par le fait que la bourgeoisie allemande est incapable d'entreprendre ce qu'ont fait les Jacobins en France, etc., et qui du coup cherche ailleurs des forces motrices, des forces porteuses pour transformer cette société bloquée et qu'il la trouve dans les germes du prolétariat naissant, tel que le découvre aussi, et qui est un peu leur précurseur, Heinrich Heine, qui les devance à Paris, qui s'exile lui aussi volontairement à Paris pour aller à la rencontre d'une capitale moderne et qui rencontre là une classe ouvrière, enfin l'ébauche d'une classe ouvrière moderne.
À partir de quand on commence à parler du communisme ? Puisqu'ils vont être les auteurs, évidemment, du fameux manifeste.
Ben, c'est dans ces années 1830. Bon, on peut dire que l'idée remonte plus ou moins, elle est dans l'air avec Babeuf, etc. Donc, mais à l'époque, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que l'idée socialiste est déjà... Les socialistes, c'est un peu la critique bien pensante, qui a une certaine reconnaissance... alors que le communisme, c'est vraiment c'est les barbares sous les murs de la cité. D'ailleurs, c'est dans un prolétariat immigré. Il y a à l'époque, je crois, à peu près 70 000 ouvriers allemands à Paris. L'immigration, elle n'est pas maghrébine, à l'époque, elle est allemande. Et ils sont cordonniers, tailleurs...
Charpentiers.
Et c'est dans les tavernes où se réunissent ces cercles, surtout de travailleurs allemands, que germent ces idées-là. Et où Hein, qui va être lié pendant quelques années très étroitement à Marx, découvre que devant cette espèce de société pourrissante, de l'enrichissez-vous, de Guizot, etc., monte en puissance une nouvelle figure de révolte, qui sont les prolétaires. Et bon, mais cette découverte, elle est dans l'air du temps. Dans Le Peuple, que Michelet publie en 1846, Michelet aussi sent, il dit d'ailleurs très, très joliment que en moins de 50 ans, la bourgeoisie a jeté le masque et que finalement, Michelet, qui vient lui d'un milieu populaire, à la différence de Marx, sans monter ces nouveaux barbares. C'est le texte, le peuple, et des premiers textes de sociologie de la société française est magnifique.
C'est la lutte finale, groupons-nous, et demain, l'internationale sera le genre humain.
Marx, Engels sont toujours présents, mais ils ont pour contemporains d'autres penseurs. Là, vous évoquez le socialisme, mais il y a d'autres penseurs. Il y en a Proudhon, on a Bakounine, on a toute une série de jeunes gens à l'époque qui essayent aussi de penser l'époque et de penser contre la domination de cette bourgeoisie.
Ah oui, il ne faut pas être anachronique. On est dans une époque, d'ailleurs jusqu'et inclus la Commune de Paris, hein, donc sur une séquence d'une trentaine d'années, qu'on peut appeler de fermentation utopique ou révolutionnaire. Les deux d'ailleurs. Mmh. J'avais un bon maître oublié, Henri Lefebvre, qui disait c'est le sens non pratique du possible, c'est-à-dire, vous avez cité des noms, mais chez Cabet, chez Fourier, qui sont encore un peu plus tôt d'une certaine manière, à quelques années près. Bon, c'est essayer d'imaginer une société différente, sens non pratique du possible, à une époque où on ne voit pas encore comment l'Athènes, quelle force pourrait finalement donner corps à ces hypothèses, à ces rêves, à ces idées, les rêves des prolétaires, de la nuit des prolétaires dont parle également Rancière. Donc on est dans cette période-là. Et là, il serait totalement anachronique de croire que les idées géniales de Marx ont été d'emblée triomphantes ou majoritaires. Non, c'est un courant.
C'est un courant parmi tout cela.
Parmi beaucoup d'autres, y compris quasi minoritaires, même dans la Première Internationale.
Comment Marx devient-il communiste?
Engels a précédé Marx, hein, là-dessus. Engels est plus jeune de 3 ou 4 ans. Engels, très tôt, lui, s'est déclaré communiste. Bon, à une époque où Marx, qui dirigeait à l'époque un journal libéral au sens libéral de l'époque, c'est-à-dire un journal démocrate en réalité, qui était la Gazette Rhénane, précisément en Rhénanie, c'est pas par hasard, comme la Rhénanie avait connu les réformes de la Révolution française, il y avait une culture plus démocratique, protestataire, il a été le rédacteur en chef de ce journal en 1842-43, Et il a exploré là les limites d'abord des libertés, de la tolérance du régime en Allemagne. C'est-à-dire que le journal a été interdit en 1943 et ça a été le déclic de son exil volontaire, là pour le coup, en France. Où il dit, mais bon là, on étouffe dans ce pays qui cuve son jus, etc. Paris est la capitale du monde aujourd'hui, et c'est aussi la capitale des idées révolutionnaires. Faut aller y voir. Mais à ce moment-là, quand les gens lui disent le communisme et tout, il y a des lettres où il dit attention, il y a beaucoup d'idées fumeuses là-dedans, il faut y réfléchir à deux fois. Et puis, il y a la découverte des limites donc de la modernisation bourgeoise en Allemagne et dans le monde. Et la rencontre du prolétariat, qui est d'abord une idée philosophique, hein, c'est l'idée où est la force capable d'accomplir ce que la bourgeoisie est incapable de faire. Voilà. Et là, il dit, bon, les prolétaires, parce qu'ils ont que leur chaîne à perdre, sont ceux qui mèneront la révolution jusqu'au bout.
Mais enfin, ça veut dire quand même que la révolution ne se fera pas par le haut, elle se fera par le bas.
Ah ça, mais ça, la formule qui est presque devenue une maxime, l'émancipation des travailleurs se relève des travailleurs eux-mêmes. Non, Marx, contrairement justement à une image qu'on a souvent...
Mais c'était pas si simple à l'époque. Maintenant, effectivement, la formule nous semble évidente, mais à l'époque, c'était pas une évidence que la révolution viendrait. Les grandes transformations ne peuvent venir que par la base, comme par le peuple.
Oui, il y a quand même derrière l'expérience de la Révolution française, hein, qui a marqué avec l'expérience quand même du mouvement populaire, de la sans-culotterie, etc. Mais c'est important parce que Marx a souvent, malheureusement, vu les péripéties historiques, associé une figure très étatiste, autoritaire. Fondamentalement, aujourd'hui, Marx apparaîtrait surtout comme un libertaire, hein, parce que ce soit ces formules-là sur l'auto-émancipation, en réalité, ou sa position sur la Commune de Paris et sa conception plus ou moins de ce que pourrait être le socialisme comme une commune de communes, Il n'est pas du tout jacobin là-dessus, Marx, contrairement à ce qu'on imagine. Hein. C'est une pyramide de communes, un pouvoir décentralisé, les gens décident, etc. La révocabilité, les mécanismes de contrôle démocratique. Il n'est pas non plus un homme de parti. Hein. J'ai fait un chapitre pourquoi Marx et Engels sont des intermittents du parti. Ils disent du parti, c'est utile quand on est en situation d'effervescence, mais dans les autres périodes, ça devient des nids d'intrigues, de mesquineries, on s'emmerde avec des cons, on perd son temps, etc. Donc ils sont pas du tout fétichistes de l'organisation. Mais cette idée part en bas. Et alors le malheur de Marx, c'est qu'il a souvent été confondu, ce qui le met dans des colères noires, avec Lassalle, qui est un autre des fondateurs du mouvement ouvrier allemand, et notamment du Parti Socialiste allemand. Ils ont été amis, se sont visités, ils se connaissent bien. Lassalle est un personnage pittoresque qui est mort en duel pour une histoire de jupons. Mais Lassalle, lui, a l'idée, effectivement, d'un socialisme étatique, c'est-à-dire un État organisateur, planificateur, qui hérite des traditions d'organisation allemande, voire prussienne, alors que Marx, pas du tout. Et quand il est furieux avec les socialistes, après les socialistes allemands, à propos du programme sur lequel ils se sont unifiés en 75, parce qu'il trouve ce programme beaucoup trop étatiste, et il dit, voilà, on va me confondre avec Lassalle, Bakounine va en profiter pour me traiter. Et donc il se bat sur deux fronts, en réalité, hein, contre l'anarchisme version Bakounine, à qui il reproche, ça peut paraître paradoxal, ce qu'il lui reproche fondamentalement, c'est d'être antidémocratique. C'est que le putschisme, c'est j'impose ma volonté, il n'y a aucune instance là-dedans d'arbitrage démocratique. Le refus de toute autorité finit par être antidémocratique. Et il se bat sur l'autre front contre le culte de l'État, de Lassalle, qui va...
Alors que l'image de Marx aujourd'hui, ce qui est resté, c'est Marx égale État centralisé. On pense tout de suite, on ne peut pas décoller tout à fait l'image de Marx de l'image de l'Union soviétique, cette succession de profils.
Voilà, c'est la généalogie... là, des broches, des médaillons soviétiques fait que, bon, ben, le pauvre, il a été associé à ce qui n'était pas... Lénine, on peut discuter, parce que c'est autre chose, mais justement, non, chez Marx, c'est une culture populaire, critique, et très peu institutionnelle, en réalité.
L'homme veut manger du pain, oui. Il veut pouvoir manger tous les jours du pain et pas de mots ronflants, du pain et pas de discours. Marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des bottes, oui. Il veut avoir bien chaud tous les jours, des bottes et pas de boniment, des bottes et pas de discours. Marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des Il ne veut pas de matraque ni de prison. Il veut des hommes, pas des parias, des frères et pas de patron. Marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Tu es un ouvrier. Viens avec nous, amis, n'aie pas peur. Nous allons vers la grande union des travailleurs. Marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers.
On continue avec Daniel Ben Saïd, Marx. Ce mode d'emploi aux éditions Zone, mode d'emploi, oui, un emploi pas forcément si évident que ça si on veut bien faire l'effort de redécouvrir ou de découvrir tout simplement Marx sous tous les clichés, les idées reçues et tous les avatars et les insultes du temps. Alors, la grande affaire, évidemment, ce sera en 1848, la publication du manifeste du Parti communiste signé Marx et Engels. Ils sont très jeunes à l'époque, les deux oiseaux.
Il a à peine 30 ans, quoi. Mm-hmm. Engels doit en avoir 26 ou 27. Oui, c'est des jeunes gens, c'est des jeunes gens. Et là, c'est le passage. Vous demandiez tout à l'heure, bon, il y a une maturation. Et là, ils sont devenus des militants de l'idée communiste, puisque c'est eux qui proposent que cette société à laquelle ils ont adhéré, qui s'appelait la Société des Justes, qui trouvait dans le titre et dans le contenu plutôt baigné d'humanisme, des lumières, etc. Et là, il faut faire un pas de plus, appeler un chat et l'organisation communiste et la doter d'un programme, pas au sens d'un programme de gestion comme on l'entendrait aujourd'hui, mais qui est plutôt une vision de l'histoire, des contradictions de la société, parce qu'en termes de programme, il y a 10 points généraux qui presque tous d'ailleurs reviennent à contester le pouvoir de la propriété privée.
Mais cette Ligue des communistes à l'époque, elle a quelle importance, elle a quelle influence, elle est connue de qui? C'est un groupuscule d'intellectuels, comme on disait pas, puisque ce mot n'existait pas, mais au fond de bistrot fumeux, ou bien ça intriguait, ça intéressait.
Alors là, il y a un point d'histoire, il faudrait voir, je pense que les documents existent, moi je serais prudent parce que je ne suis pas historien, ça m'intéresse, mais je pense que ça tient des deux. Il y a des cercles conspiratifs parce qu'on est dans une transition, il ne faut pas non plus avoir en tête que quand ils manifestent du Parti communiste, puisque c'est le titre exact du manifeste, on a tendance à imaginer par parti les partis tels qu'ils existent aujourd'hui. À l'époque, parti, c'est plutôt un courant de pensée autour d'un journal. Il faut penser qu'il n'y a pas d'institution parlementaire tellement stabilisée. La plupart sont pas légaux. Donc, il y a le côté, c'est une transition, finalement, entre les sociétés secrètes et les partis modernes. Voilà, c'est à la charnière des deux. Du coup, on a les deux phénomènes. Il y a des cercles qui sont composés d'intellectuels ou d'ouvriers autodidactes, hein, beaucoup. Hein. Faut pas non plus croire que l'époque, les universités étaient pas si massives que ça. Vous avez tout un tas de portraits, les gens dont Rancière d'ailleurs a parlé, dans la nuit des prolétaires, etc., qui sont des ouvriers autodidactes. Bon, il n'y a pas le côté cooptation par le système scolaire, donc les gens, voilà, ils lisent, ils apprennent. Donc il y a ces cercles-là, qui sont des cercles semi-conspiratifs. Et puis, il y a un écho des idées, là, qui semble réel. Quand, au moment de la révolution de 48, Engels repart faire le coup de feu en Rhénanie, précisément, il dit, bon, les communistes de Cologne sont 8000. Bon, 8000 à l'époque, alors il n'y a pas de statistiques fiables. Hein, ça doit être beaucoup plus nébuleux, il faut pas compter la remise des cartes et le paiement des timbres. Bon, donc c'est plus un mouvement hein, qu'un parti au sens, mais ça fluctue entre les deux. Il y a un noyau assez conspiratif organisé. La Ligue des communistes, c'est un réseau d'organisations. C'est pas une organisation nationale. Hein, c'est une petite internationale qui existe en Belgique, en Angleterre, en Allemagne et en France. On s'organise d'emblée. L'idée n'est pas des partis nationaux. Hein, c'est d'emblée en fait un mouvement qui est européen au moins.
Et c'est cette Ligue des communistes qui demande à Marx et Engels ce texte.
Qui lui demande ce texte. Alors Marx traîne un peu, il se fait secouer les bretelles parce qu'il devait le donner en décembre 47, pas tout à fait prêt. Je crois qu'il le remet en janvier 48. Et puis quand les premiers exemplaires imprimés paraissent, c'est la révolution de février en France. Avec la précision que le texte paraît en allemand, mais qu'il faudra attendre plus de 30 ans pour qu'il soit traduit en français. Il faut pas imaginer que les gens lisaient le manifeste communiste sur les barricades de juin 48.
Ça veut dire que ça sera publié en français après la Commune de Paris.
Après la Commune et aux États-Unis en 72, je crois.
Quelle a été, alors, à l'époque, l'influence de ce texte, sa vie, sa portée? On sait que c'est un des textes les plus lus au monde.
C'est devenu un des textes les plus lus parce qu'il a eu, après les grandes machines éditoriales, bon, il suffit qu'il y ait l'édition des éditions de Pékin, bon, ça fait exploser
bien sûr.
Bon. Non, à l'époque, le texte a circulé assez modérément. Je suis pas sûr que le manifeste ait été à l'époque le texte le plus connu de Marx. Hein. En français, c'est peut-être peu connu, mais par exemple, était certainement plus connu, Misère de la philosophie, et sa polémique avec Proudhon. qu'il a écrite en français. Ce qui est assez, assez remarquable, parce que c'est du très bon français. Si je pouvais écrire l'allemand... comme ça.
Mais ce qui est stupéfiant avec le manifeste du Parti communiste, encore une fois, faut pas confondre ce Parti communiste-là et le Parti communiste français, par exemple, oui. Bien évidemment, faut bien détacher ces deux notions. Il y a des passages absolument stupéfiants de modernité, enfin, sur ce qui se passe aujourd'hui. Oui, bien sûr, la crise, le libéralisme, l'exploitation, etc.
Mais ça, je crois que c'est le point extrêmement fort de Marx. Un texte qui est très court, qui est une brochure, finalement, le manifeste du Parti communiste. Vous avez pas seulement une description, ce que aujourd'hui ferait un journaliste raisonnable de la mondialisation, mais il y a à la fois la description de ce dynamisme de la société qui s'industrialise, qui se transforme, qui s'urbanise, etc. Mais il y a en même temps la recherche d'une explication théorique à ce dynamisme-là. Ça, ce que font beaucoup moins nos gazettes aujourd'hui. Et c'est de découvrir quel est le secret de ce dynamisme. Et ça nous amène du manifeste au capital. C'est-à-dire, derrière, il y a le besoin du capital d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Donc, d'élargir d'abord sa surface de captation de la marchandise. Donc, la logique de la mondialisation, elle est presque dans le gène du capital pour Marx. Il doit toujours repousser ses frontières et toujours, finalement... englober, dévorer à son système de nouveaux espaces, donc réellement se mondialiser. Donc il y a l'idée de la mondialisation, elle est dans le manifeste communiste de manière éclatante, jusqu'à l'idée que l'humanité, biologiquement, c'est une espèce universelle, maintenant, socialement, elle ne deviendra universelle qu'à travers justement la mondialisation des échanges, jusqu'il le dit à la création d'une littérature universelle. À l'époque, c'est inimaginable. Aujourd'hui, on a un livre de poche, la littérature africaine, japonaise, les traductions, etc. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, l'idée de l'accélération. C'est que le capital, pour résister finalement à sa dévalorisation, est obligé d'accélérer en permanence son mouvement, de tourner toujours plus vite, etc. Et c'est ça qui sous-tend le sentiment vulgaire commun que vous avez, que nous avons, derrière la formule d'ailleurs populaire, l'histoire va toujours plus vite, l'histoire s'accélère. L'histoire n'est pas un personnage. En réalité, ce qui s'accélère, c'est la rotation du capital.
Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde. Afin d'écraser tout ce qui est petit et fragile, y a pas une nuit sans journée avortée, pis de sang dans les mains. Tu veux juste du gros cash, puis des portes coulissantes, des poupées russes, puis des montagnes communicantes, des gratte-ciels dans tous les ghettos du monde entier, puis fourrer tout ce qui bouge avec la spéculation. Tu veux modifier les paysages de la planète, remplir les vallées, aplanir les montagnes, jouer avec le chimique puis le nucléaire. Tu suis la logique de détruire avant de construire. T'ouvres les frontières et tu violes la culture avec une gang de gros portefeuilles mercenaires. Gendarme du monde moderne et gestion de crise, c'est la mathématique de l'ovale et du pentagone. Pour contrecarrer tout ce qui tourne pas rond, tu peux garder tes poignées de main vers la populace puis ton sourire blanchi comme l'argent qui brasse. Depuis des siècles, où t'as voulu faire de l'homme un animal inhumain pour que tu puisses dormir tranquille sur ton capital. Et c'est avec des bateaux qui venaient d'Afrique que t'as accumulé des Himalayas de gros cache éternelle. T'as détruit plus d'un peuple dans ta vie, mais on t'a jamais accusé de génocide. Ton histoire est jalonnée de plein de cadavres, mais ça se fait pas d'accuser la main qui frappe plus fort que les autres. Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde. Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde. Excité parce que l'Asie s'ouvre enfin à toi. L'avenir est tellement beau dans la mondialisation des marchés. Faire un pas en arrière, c'est pas bien gagnant. Allons de l'avant vers l'Eldorado économique et le suicide collectif des inégalités. Mais tout le monde est égal devant une télé. Même les morts restent tranquilles devant le préfabriqué, comme cette information divertissante que tu joues sans relâche entre les pauses publicitaires. Et c'est par tous les moyens de régulation, sous le couvert d'une aide au développement, que tu donnes des cadeaux empoisonnés. cocktail des déchets radioactifs à manger. C'est la grande philosophie du pas dans ma cour. Déplacer le problème vers les autres, c'est comme clore le débat pour toujours. Tu trouves ça pas correct que les pays n'ouvrent pas leurs frontières à des produits OGM bon marché pour expérience planétaire. Tu vises le monopole alimentaire avec des médicaments expirés et du réconfort dans les boissons gazeuses. Comme si c'est toi qui allais sauver le monde, mais c'est toi la maladie qui gruge la planète. Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde.
On continue avec Daniel Ben Saïd qui sort aux éditions Zone Marx, mode d'emploi avec des dessins de Charb. Alors, autre chose concernant Marx, Engels et le communisme, c'est la question
de la... Je crois.
Quelle a été, à l'époque, l'influence de ce texte, sa vie, sa portée? On sait que c'est un des textes les plus lus au monde.
C'est devenu un des textes les plus lus parce qu'il a eu, après les grandes machines éditoriales, bon, il suffit qu'il éditionne des éditions de Pékin, bon, ça fait exploser
quand même.
Bon, non, à l'époque, le texte a circulé assez modérément. Je suis pas sûr que le manifeste ait été à l'époque le texte le plus connu de Marx, hein. En français, c'est peut-être peu connu, mais par exemple, était certainement plus connu Misère de la philosophie et sa polémique avec Proudhon. Et qu'il a écrite en français, ce qui est assez remarquable, parce que c'est du très bon français. Si je pouvais écrire l'allemand comme ça...
Mais ce qui est stupéfiant avec le manifeste du Parti communiste, encore une fois, faut pas confondre ce Parti communiste-là et le Parti communiste français, par exemple,
oui.
Bien évidemment, faut bien détacher ces deux notions. Il y a des passages absolument stupéfiants de modernité, enfin, sur ce qui se passe aujourd'hui, oui, bien sûr, la crise, le libéralisme, l'exploitation, etc.
Mais ça, je crois que c'est le point extrêmement fort de Marx, un texte qui est très court, qui est une brochure, finalement, le manifeste du Parti communiste. Vous avez pas seulement une description, ce que aujourd'hui ferait un journaliste raisonnable de la mondialisation, mais il y a à la fois la description de ce dynamisme de la société qui s'industrialise, qui se transforme, qui s'urbanise, etc. Mais il y a en même temps la recherche d'une explication théorique à ce dynamisme-là. Ça, ce que font beaucoup moins nos gazettes aujourd'hui. C'est de découvrir quel est le secret de ce dynamisme. Et ça nous amène du manifeste au capital. C'est-à-dire, derrière, il y a le besoin du capital d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Donc, d'élargir d'abord sa surface de captation de la marchandise. Donc, la logique de la mondialisation, elle est presque dans le gène du capital pour Marx. Il doit toujours repousser ses frontières et toujours, finalement... englober, dévorer à son système de nouveaux espaces, donc réellement se mondialiser. Donc il y a l'idée de la mondialisation, elle est dans le manifeste communiste de manière éclatante, jusqu'à l'idée que l'humanité, biologiquement, c'est une espèce universelle, maintenant, socialement, elle ne deviendra universelle qu'à travers justement la mondialisation des échanges, jusqu'il le dit à la création d'une littérature universelle. À l'époque, c'est inimaginable. Aujourd'hui, on a en livre de poche la littérature africaine, japonaise, les traductions, etc. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, l'idée de l'accélération, c'est que le capital, pour résister finalement à sa dévalorisation, est obligé d'accélérer en permanence son mouvement, de tourner toujours plus vite, etc. Et c'est ça qui sous-tend le sentiment vulgaire commun que vous avez, que nous avons, derrière la formule d'ailleurs populaire, l'histoire va toujours plus vite, l'histoire s'accélère. L'histoire n'est pas un personnage. En réalité, ce qui s'accélère, c'est la rotation du capital.
Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde. Afin d'écraser tout ce qui est petit et fragile, y a pas une nuit sans journée avortée pis de sang dans les mains. Tu veux juste du gros cash puis des portes coulissantes, des poupées russes puis des montagnes communicantes, des gratte-ciels dans tous les ghettos du monde entier, puis fourrer tout ce qui bouge avec la spéculation. Tu veux modifier les paysages de la planète, remplir les vallées, aplanir les montagnes, jouer avec le chimique puis le nucléaire. Tu suis la logique de détruire avant avant de construire. T'ouvres les frontières et tu violes la culture avec une gang de faux portefeuilles mercenaires. Gendarmes du monde moderne et gestion de crise. C'est la mathématique de l'ovale et du pentagone. Pour contrecarrer tout ce qui tourne pas rond, tu peux garder tes poignées de main vers la populace. Puis ton sourire blanchi comme l'argent qui brasse. Depuis des siècles, où t'as voulu faire de l'homme un animal inhumain pour que tu puisses dormir tranquille sur ton capital. Et c'est avec des bateaux qui venaient d'Afrique que t'as accumulé des Himalayas de gros cash éternel. T'as détruit plus d'un peuple dans ta vie, mais on t'a jamais accusé de génocide. Ton histoire est jalonnée de plein de cadavres, mais ça se fait pas d'accuser la main qui frappe plus fort que les autres. Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde. Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde. Excité parce que l'Asie s'ouvre enfin à toi. L'avenir est tellement beau dans la mondialisation des marchés. Faire un pas en arrière, c'est pas bien gagnant. Allons de l'avant vers l'Eldorado économique et le suicide collectif des inégalités. Mais tout le monde est égal devant une télé. Même les morts restent tranquilles devant le préfabriqué, comme cette information divertissante que tu joues sans relâche entre les pauses publicitaires. Et c'est par tous les moyens de régulation, sous le couvert d'une aide au développement, que tu donnes des cadeaux empoisonnés. Tels des déchets radioactifs à manger. C'est la grande philosophie du Paul en ma cour. Déplacer le problème vers les autres, c'est comme clore le débat pour toujours. Tu trouves ça pas correct que les pays n'ouvrent pas leurs frontières à tes produits OGM bon marché pour expérience planétaire. Tu vises le monopole alimentaire avec des médicaments expirés et du réconfort dans les boissons gazeuses. Comme si c'est toi qui allais sauver le monde, mais c'est toi la maladie qui gruge la planète.
On continue avec Daniel Ben Saïd qui sort aux éditions Zone, Marx, mode d'emploi avec des dessins de Charb. Alors, autre chose concernant Marx, Engels et le communisme, c'est la question de l'individu. De l'individu, parce qu'on oppose une espèce de masse collectivisé comme ça de personnages, d'êtres humains à peine distincts les uns les autres. Voilà, ça ce serait le communisme. Et puis on aurait de l'autre côté des personnalités, des personnages, des individus qui se développeraient à loisir. J'exagère à peine, hein. Or ce que vous rappelez, c'est que dans le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, ils définissent le communisme comme une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous.
Oui, oui.
C'est quand même un élément important, parce qu'on oublie trop ça. Hein. On pense que Marx égale masse.
Ben oui, mais parce que finalement, dans le communisme officiel, enfin en tout cas dans le discours officiel qui a été tenu, on a lu la formule à l'envers souvent, c'est-à-dire que le libre développement de tous conditionne le libre développement de chacun. L'ordre des termes dans la phrase que vous avez citée est pas du tout indifférent, c'est bien le libre développement de chacun comme condition du libre développement de tous. Bon, de ce point de vue-là, c'est pas si surprenant si on pense que Marx est quand même un héritier en ligne directe de la Révolution française et que le développement de l'individu comme citoyen et comme citoyen autonome, comme citoyen émancipé des liens, des rapports hiérarchiques, émancipé de la domesticité, émancipé des rapports de dépendance. Donc l'existence de l'individu comme individu est un acquis des révolutions modernes et Marx non seulement s'appuie là-dessus mais veut le prolonger. Donc et son idéal d'émancipation est effectivement l'idéal d'émancipation individuelle. Il y a un autre texte, bon mais on peut pas les citer tous, dans lequel comment il imagine l'individu en question, libre, c'est le jour où chacun pourra être cultivateur le matin, philosophe l'après-midi et poète critique le soir. Il y a même un côté lyrique, utopique là-dedans. C'est l'être complet qui est enrichi de ses multiples activités. Mais derrière, il y a une idée qui est profonde, c'est que un des critères de progrès chez Marx, c'est pas combien de tonnes d'acier ou de charbon, hein, contrairement à ce que quand il y avait les statistiques soviétiques, c'est le fait que les besoins humains soient de plus en plus diversifiés, différenciés, que chaque individu devienne le plus singulier possible parce qu'il est une composition singulière de besoins particuliers, originaux, etc. Donc, c'est effectivement un idéal individuel. Maintenant, il faudrait pas non plus inverser totalement la formule, hein. L'émancipation est pas un plaisir solitaire. Les deux vont ensemble, de chacun et de tous.
Finalement, le communisme du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'on peut dire que ce projet, ce rêve, ou cette analyse a déjà été mise en œuvre dans l'histoire?
Non, d'abord c'est pas un projet achevé, c'est pas un modèle de société, hein, c'est une ouverture sur le futur, en quelque sorte, il y a des pistes. Mais c'est ce qui fait la différence, hein, quand il polémique avec les utopistes, il dit « je vous livre pas » ou « j'essaie pas de dessiner sur plan une société heureuse, clé en main, etc. » j'essaie de voir dans le mouvement de la société les germes de ce qui préfigure, annonce une société future. Donc il ne s'agit pas de décoller, mais il s'agit de faire vivre. Et la définition qu'il donne du communisme, s'il y en a une, c'est pas du tout définir un système. Bon, ça, il se construira par ceux qui le feront, c'est l'auto-émancipation. Mm-hmm. C'est de dire, c'est le mouvement qui abolit l'ordre établi. Donc il n'y a pas là-dessus de modèle de société sur plan. Du coup, ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'il y a eu des moments... On pourrait appeler ça des moments communistes, d'ailleurs, qui sont des portes entrouvertes sur ce futur-là.
Lesquelles, bon, par exemple, dans l'histoire?
Évidemment, la Commune de Paris, ça, pour Marx, quand il parle de la solution enfin trouvée, etc., bon, c'est que là, il n'a pas cherché à inventer sur le papier, mais voilà, qu'est-ce que les gens ont inventé, réellement, hein. Bon, on pourrait dire que, dans les meilleurs moments de la révolution russe, et malgré la pénurie, si on regarde ce qui s'est fait, y compris dans le domaine culturel, par le mouvement futuriste, les désurbanistes, etc., même sur le terrain même de l'éducation, il y a eu des trucs dans une situation de quasi-guerre civile, disons la séquence 17, il y a des ouvertures. Tout ça dans des conditions de pénurie, de contraintes et parfois d'horreur. On peut dire que les expériences libertaires de Catalogne en 36-37... il y a de ça aussi. Donc, finalement, là, il faudrait faire l'inventaire de ce que les mouvements populaires, ce que, à partir de 52, ont fait les mineurs boliviens, ce que les expériences d'autogestion, y compris des piqueteros en Argentine en 2001-2002, ou les usines d'ailleurs encore en autogestion en Argentine, LIP. Bon, c'est un petit moment communiste à échelle locale, mais quand on voit aujourd'hui le film sur LIP, donc voilà, c'est d'avoir confiance. Ça, c'est ça, les germes de l'avenir, ils sont là, quoi.
Un siècle passé de travail et de crise, un siècle passé de sueur et de fer, un siècle passé comme autant des cerises, un siècle passé à l'ombre de prés verts, mur gris le long de l'avenue, mur gris de cette usine, mur gris des espoirs déçus, poussière et de ruines, entrer, sortir des milliers de fois et revenir, entrer, sortir des milliers de fois et repartir, relève pesante du matin, les outils, le chef, les consignes et le regard de mes copains et ce besoin de rester digne, peuple du sud, du nord, mêlé, portugais, de Mirandelle, russe blanc et polonais, rouge et noir venant d'Espagne, garibaldiens de Romagne, arabes et sénégalais, et des Français de la campagne. La coulée d'acier dans nos veines, la fonte grise et la douleur, la lutte, la joie, la grève, la résistance dans nos cœurs.
Quelle est leur popularité de leur vivant? Quel est leur retentissement? Quel est le succès de leur publication, de leur papier, de leur...
Je crois qu'en publiciste, il y a un écho. Alors maintenant, il est dur à pondérer. Bon, d'après la presse anglaise, notamment autour de la Commune de Paris, avant, c'est jamais que des émigrés qui paient pas leurs notes de boucher, qui ont des emmerdements. Enfin, Marx, parce qu'Engels, lui...
Oui, ça, vous évoquez la vie quotidienne dans la famille Marx, c'était pas...
Ah non, il a perdu 3 enfants, bon, ce qui était pas d'ailleurs exceptionnel à l'époque, mais... Et à Soho, il a vécu dans la misère totale. L'histoire des notes de boucher, c'est... Et encore de boucher, on mangeait pas beaucoup de viande à l'époque, mais...
C'était Engels qui soutenait la famille, un peu.
Et Engels s'est sacrifié. Quand je dis c'est un type sympathique, parce qu'Engels, à mon avis, vie a des capacités. C'est pas le bon compère, le bon copain qui justement règle les notes de fin de mois dans les mauvais moments, mais c'est quelqu'un qui a une œuvre à lui. À 23 ans, il a écrit un livre magnifique qui est peu réédité en français, qui est La condition de la classe laborieuse en Angleterre, qui est une sorte de livre publié en 1844, qui est un livre pionnier de la sociologie urbaine et de l'écologie urbaine sur les questions de santé, de maladie, etc., sur Manchester. Bon, sur les questions militaires et même sur les questions scientifiques, il a dit des bêtises, mais pas que des bêtises. Engels, c'est un grand bonhomme. Bon, bah, il a, en gros, passé plus de 20 ans de sa vie à s'emmerder, parce qu'il le dit, à gérer la boîte. Alors, ça a servi à Marx, comme ça, Engels connaissait comment fonctionne un capitalisme, les rythmes de l'investissement, de renouvellement des machines, etc., etc. Mais, bon, il s'emmerdait, il le dit, et dès qu'il a pu solder la boîte et se livrer à ses travaux littéraires et venir habiter Londres, il l'a fait. Mais
comment est reçu le Capital ?
Bah, le Capital, d'abord, n'a été publié du vivant de Marx que le premier livre. Reçu à l'époque, ça a fait quand même. Il a eu un écho international assez rapide, puisqu'il est paru en 1867. Et en moins de 15 ans, ce qui à l'époque, l'édition n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, était traduit en français du vivant de Marx, en russe du vivant de Marx. Donc le livre 1 du Capital a eu un écho important très vite, hein, dans les milieux socialistes, économistes, etc. Leur notoriété dans les milieux socialisants, elle est importante. Maintenant, on n'est pas à l'époque de la grande médiatisation. Alors c'est en partie la bourgeoisie, hein, qui, au moment de la Commune de Paris...
Les communards l'avaient lu, oui.
Il y a une aile communarde, Varlin, etc., sont des lecteurs de Marx. Mais pas tous. Blanqui, pas tellement, il n'a pas eu trop l'occasion, le pauvre homme... Et puis il fallait lire l'allemand souvent, hein. C'était pas traduit, je dis le manifeste communiste n'était pas traduit, a fortiori d'autres choses. Donc la popularité de Marx, c'est les réunions internationales, c'est la presse anglaise qui s'est acharnée, hein. Et c'est les expulsions, tout ça lui a fait de la popularité, il a été expulsé de France, expulsé d'Allemagne, expulsé de Belgique... Et la presse anglaise l'a rendu finalement populaire en dénonçant le diable.
Demain, suite de l'entretien avec Daniel Ben Saïd autour de son ouvrage Marx, mode d'emploi, publié en avril dernier aux éditions Zone. À lire également un texte inédit de Karl Marx, Les crises du capitalisme, apparaître en juin aux éditions Démopolis et préfacé par Daniel Ben Saïd. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis, à la technique aujourd'hui Antoine Viossa et Pierrick Monsigny, réalisation Corienne Guyenne et Raphaël Moutarde, assistante Charlotte Perry, répondeur Agnès Lebotte. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.